Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre rendez-vous mensuel sur le jeu et sur l'actualité ludique de la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu et j'animerai cette émission. Comme tous les mois, je reçois un ou une invitée qui vient nous livrer son actualité, sa passion, nous parler un petit peu de ce qu'il ou elle aime faire. Et aujourd'hui, je reçois Lise Bouilleux qui vient nous parler de jeux de rôle en ligne. Bonjour Lise.
Bonjour David.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Bienvenue dans Quoi qu'on joue. Alors Lise, tu es presque une de nos habituées, c'est pas la première fois que tu viens. On t'avait déjà reçu l'an passé et il y a de ça 2 ou 3 ans où tu étais venue nous parler de MMORPG, de jeux de rôle en ligne.
Non, hein. De jeux vidéo en fait.
Voilà, tu étais venue parler de jeux vidéo, de MMORPG et aujourd'hui tu viens nous parler d'une autre pratique en ligne qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, qui a à voir avec le jeu de rôle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Lise, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, alors donc du coup, je suis une joueuse depuis longtemps, j'atteins la trentaine et toujours je joue aux jeux vidéo.
Félicitations.
Voilà, merci. Une belle carrière et je joue un peu à tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé le jeu de rôle classique dont on va parler il y a maintenant peut-être plus d'une dizaine d'années. Et c'est assez naturellement qu'avec la multiplication des supports en ligne, on est passé en ligne, en fait, justement.
Bien sûr.
Et voilà.
Très bien, merci Lise.
De rien.
Alors, tu le sais, notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?». Tous les mois, je pose la question à mes invités. Lise, toi, donc, à quoi tu joues ?
En ce moment ?
Oui.
Ah, alors ça, c'est le moment publicité. En ce moment, je joue et depuis quelques mois, on avait parlé des MMORPG la dernière fois et j'ai changé de MMORPG parce que je joue à Final Fantasy XIV en ce moment et depuis 6 mois. Et voilà, c'est très très bien. Jouez-y si vous aimez les jeux vidéo.
Alors, c'est le Final Fantasy qui se joue exclusivement en ligne.
En ligne, ouais, ouais.
C'est ça ?
Voilà.
Mais c'est pas un modèle tout frais, il est sorti il y a déjà quelques années quand
il
même.
Le premier volet est sorti il y a 10 ans maintenant.
Ouais, oui, c'est bien voilà. Ça, oui.
C'est la continuité d'une histoire qui dure depuis 10 ans, en fait, et c'est vraiment très chouette.
Et tu joues sur quel support ?
Sur PC, mais je sais qu'il existe aussi sur...
Il existe sur console,
sur
oui.
Sur console, ouais.
Il me semble que je...
C'est une des particularités.
Au conservatoire, on en a un exemplaire sur PlayStation 3, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est qu'il se joue sur console, effectivement, oui, aussi.
Très bien, donc Final Fantasy XIV.
Voilà.
Bien. tu veux faire un coucou à un joueur ?
je fais coucou à mes copains de jeu, ils se reconnaîtront.
Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de jeux de rôle en ligne. J'aimerais qu'avant qu'on parle de jeux de rôle en ligne, on parle un petit peu de jeux de rôle pour que nos auditeurs puissent bien situer de quoi on va parler. Alors, le jeu de rôle, Lise, en quelques mots, qu'est-ce que c'est comme activité ludique ?
Alors, c'est une activité ludique qui est pas très compliqué en fait, parce que c'est des choses qu'on faisait même des fois quand on était enfant en fait, et c'est jouer à faire semblant.
Oui.
C'est jouer à faire semblant avec quelques subtilités, des règles un peu plus poussées des fois, mais c'est même pas obligatoire. En gros, on nous propose un univers de jeu, donc ça peut être autant du fantastique que du futuriste, que de... bon, peu importe. Et le maître du jeu, du coup, qui dirige les parties, nous propose cet univers et c'est à nous de construire un personnage autour de ça pour faire progresser une histoire à travers de la narration, en fait.
Oui.
Donc au final, on a besoin de pas grand-chose pour jouer, à part son imagination, un papier, un stylo et des dés. Éventuellement, c'est même pas obligatoire.
Oui.
Voilà.
Et tu disais que tout petit, on joue déjà des jeux de rôle sans s'en rendre compte avec le faire semblant. Alors juste pour éclairer un peu vos lumières, quand vous étiez enfant, que vous jouiez, je sais pas moi, aux gendarmes et aux voleurs ou aux cow-boys et aux indiens, vous étiez en train de faire un jeu de rôle, hein, puisque vous incarniez un personnage. Donc du coup, c'est bel et bien un jeu de rôle. C'est vrai que le jeu de rôle, je crois, le plus connu et sans doute l'un des premiers, c'est Donjons et Dragons. Donc tout le monde connaît ce nom-là. Sur les jeux de rôle, alors on a tendance à dire jeu de rôle papier maintenant, puisqu'effectivement,
oui,
c'est une activité qui se pratique normalement autour d'une table, en société, mm-hmm, avec 2, 3, 4, 5 personnes un peu plus, même s'il faut. Le principe du jeu de rôle, ça reste quand même qu'on a donc un meneur de jeu, mm-hmm, qui raconte une histoire, et chaque joueur autour de la table incarne un personnage qu'il a créé, et va être un des protagonistes de l'histoire du maître de jeu, donc il va être plongé directement au cœur de l'aventure. En termes de système de jeu, Lise, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu de rôle ? Comment ça fonctionne exactement ?
En tout cas, moi, de mon expérience, tous les systèmes de jeu auxquels j'ai joué, toutes les parties auxquelles j'ai joué, c'est vraiment axé sur du narratif. Donc, c'est-à-dire de décrire ce que notre personnage fait, de jouer notre personnage comme si, comme si on était lui, quoi. Mais en racontant nos actions. Généralement, l'exemple que je donne quand on parle de jeu de rôle, quand les gens ne comprennent pas trop, c'est imaginez, le maître du jeu vous dit vous êtes en train de dîner à votre table et soudainement, vous entendez un bruit dans la cave. Qu'est-ce que vous faites? Et là, je dis, vous êtes les joueurs, vous êtes les gens à table, et c'est à vous de choisir ce que vous allez faire. Est-ce que vous continuez à dîner tranquillement et vous verrez les conséquences de ça plus tard, ou est-ce que vous décidez de descendre et de voir ce qui s'y passe? Et ça peut être rien, ça peut être tout, ça peut être...
Voilà, effectivement, ça reste effectivement le choix toujours du joueur, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir un joueur qui te répond, je finis de manger, je me fiche des sons qu'il y a à la cave, alors que d'autres peuvent te dire, je saute de ma chaise et je fonce voir ce qui se passe.
Et c'est le travail du maître de jeu, après, de construire l'univers et de développer l'histoire en fonction des actions des joueurs, en fait. Et puis d'expérience, les joueurs ne vont jamais dans la direction qu'on leur a suggéré.
Alors donc, c'est vrai que quand on fait un petit peu de jeu de rôle, on a tendance à dire s'il y a un chemin qui se divise en deux parcours et qu'il y a un panneau qui écrit n'allez surtout pas par là, on a tendance à voir les joueurs y aller.
Oui, voilà. Et à faire des actions qui étaient absolument pas prévues, mais c'est aussi ça la magie du jeu de rôle, c'est que des fois il y a des meilleures scènes qu'on a pu vivre en jeu de rôle, ça a été des choses complètement improvisées parce que les joueurs sont allés totalement à l'opposé de là où on pensait qu'ils allaient aller au début.
Alors, les joueurs improvisent leur rôle, mais le maître de jeu, quant à lui, il a quand même une trame narrative derrière lui. Il a ce qu'on appelle tout simplement son scénario.
Son scénario.
Et à partir de son scénario, effectivement, il va être obligé d'improviser certains morceaux parce qu'il ne peut pas anticiper les choix et les décisions de chacun des joueurs. Et prévoir à l'avance ce que tous les personnages sont en mesure de faire.
Voilà.
En termes de règles, on peut quand même dire que très souvent, on trouve l'utilisation des dés. En fait, quand vous créez un personnage de jeu de rôle, vous avez des caractéristiques, la force, l'intelligence, la dextérité. Elles sont différentes selon les jeux, selon ce qui sera nécessaire. Vous avez un score face à cette caractéristique, et avec les dés, vous allez lancer les dés par un système de règles. On vous dira combien de dés vous lancez, quel score vous devez réaliser. Généralement, faut faire en dessous du score indiqué sous la caractéristique avec CD. Et en dernière spécificité, je crois qu'on peut dire que le jeu de rôle se joue avec des séries de dés différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Puisque quand on parle d'un dé, c'est un dé à 6 faces. Alors que dans le jeu de rôle, on va appeler les dés selon leur nombre de faces. Et il y en a une multitude. Il y a les dés 10, les dés 20, les dés 100. Donc tout ça, le chiffre derrière, c'est effectivement le nombre de faces qu'il y a au dé. Lise, je te propose qu'on fasse une première coupure musicale avec un morceau que tu nous as apporté.
Oui.
Et qu'on parle ensuite un peu de jeu de rôle en ligne. Alors, c'est parti pour une chanson de Sting qui s'appelle Lise...
What could have been, merci pour l'accent.
Et derrière, c'est parce que le mien est très mauvais. C'est parti pour Sting. I am the monster you created. You ripped out all my parts. Worst of all, for me to live, I gotta kill the part of me that saw, and I needed you more. I hope you know we had everything, and you broke me and left these pieces. I want you to hurt like you hurt me today, and I want you to lose like I lose when I play. What could have been? Thank you. Et voilà, c'était Sting avec la chanson What Could Have Been. Je l'ai bien prononcé.
Chacun son tour. Ouais, c'était mieux que moi.
Oh, merci. On fait jamais des compliments sur mon anglais. Je me demande toujours pourquoi. Alors, Lise, c'est toi qui nous as apporté ce morceau. Pourquoi ce titre en particulier?
Alors, c'est un titre qui est tiré de la bande originale de la série Arcane, là, qui a été diffusée sur Netflix il y a quelques
semaines, mois.
Enfin, il y a très récemment. Et qui est tiré d'un, basé en tout, sur un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Mais on peut tout à fait regarder la série sans avoir jamais joué au jeu vidéo. Et c'est très très chouette. C'est un studio français qui l'a réalisé. C'est vraiment très très chouette si vous aimez les séries d'animation.
Et ben moi, figure-toi que je l'ai regardé. Je n'ai jamais joué à League of Legends. Et j'ai trouvé aussi ça très bien. J'étais ravi de pas du tout être perdu dans l'univers qui est présenté. Parce que bon, suivre l'aventure des personnages, tout le monde est capable de suivre l'aventure des personnages. Mais c'est vrai que quand t'es plongé dans un univers où tu vas trouver des jargons ou des choses bien particulières, là, c'est vrai que c'est très accessible. Et puis, le scénario, alors on va évidemment pas vous spoiler, mais l'histoire le déroulement de l'histoire, en tout cas, est très intéressant, un format un peu particulier qui se déroule sur un certain temps. Et puis surtout, graphiquement.
C'est très, très beau.
C'est très beau. On peut comprendre qu'effectivement, c'est assez tranché comme choix graphique. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, à mon avis. Mais c'est beau. C'est beau.
On dirait de la bande dessinée animée, en fait.
Ouais,
c'est vraiment.
Ouais, ouais. Il y avait quelque chose. Moi aussi, il y a des scènes, je me disais, on dirait presque des dessins faits avec des aquarelles, des pastels, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, Arcane, League of Legends. Voilà. Si on a un petit conseil à vous donner au passage, on en profite.
C'était le conseil.
C'est sur Netflix, n'hésitez pas à aller voir, il y a une saison. Alors donc, Lise, on est donc là pour parler de jeux de rôle en ligne. Alors, Lise, je vais poser une première question un peu bête, mais le jeu de rôle en ligne, qu'est-ce que c'est ?
Alors, on prend exactement tout ce dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire on est ensemble, on joue, on a des fiches de perso, des dés, etc. Sauf qu'en fait, au lieu d'être là présent physiquement tous autour d'une table, en fait, on est présent tous autour d'un micro, je sais pas comment on veut dire.
Oui, autour d'un ordinateur.
Autour d'un ordinateur, évidemment, pas au même endroit, c'est-à-dire chacun chez soi, son casque, son micro, et on joue ensemble comme ça. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée ces dernières années, voire ces derniers mois, due à l'impossibilité pour certains joueurs de se rejoindre.
Ouais.
Et d'être ensemble. Et il y a tout un tas d'outils qui se sont développés autour de ça.
Eh bien, je te propose qu'on commence justement par les outils et en premier lieu les plateformes, puisque le jeu de rôle en ligne, ça s'improvise pas forcément comme ça en claquant des doigts. Il y a des plateformes qui aujourd'hui sont dédiées à la pratique.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut télécharger? Dis-nous, Lise.
Alors, en fait, en soi, on n'a pas besoin de grand-chose non plus pour pouvoir le faire. On a besoin d'un moyen de communiquer et d'échanger. Mais il y a des plateformes spécifiques qui ont été créées pour ça. Une des plus connues, c'est une plateforme qui s'appelle Roll20.
Oui.
Ou Roll20.
Oui, moi je l'appelle Roll20, mais bon.
C'est pour ça que je le dis. qui a été créée exprès pour le jeu de rôle en ligne, en fait. Et elle est utilisée maintenant depuis quelques années. Je sais que, par exemple, le joueur du grenier avait fait toute une campagne. C'est lui qui avait lancé ça en France, le premier.
Oui, mais je me souviens.
Populariser une émission de jeu de rôle.
Ça, son émission s'appelait Aventure,
Aventure, oui. Elle est disponible sur YouTube, toujours, je crois. Mm. Moi, personnellement, je sais qu'on se sert de Discord. Ça a ses avantages, ses inconvénients, mais ça permet de centraliser tous nos documents de jeu et d'utiliser des bots, quoi, donc des applications en plus pour pouvoir lancer les dés, mettre de la musique, partager.
Alors, effectivement, le jeu de rôle en ligne, soit on passe par un site dédié, en fait, et d'ailleurs, il y a pas mal de sites dédiés qui vont vous renvoyer vers Discord de toute façon, soit on a directement un Discord et un groupe de copains et on peut se lancer comme ça avec eux.
C'est ça. L'avantage de Roll20, par exemple, c'est que c'est plus visuel. On peut mettre des cartes ou des choses comme ça avec des cases pour des déplacements, pour situer où est exactement son personnage dans une scène, etc. C'est vraiment fait pour, notamment si on fait des jeux comme Donjons et Dragons où le déplacement dans les combats est très important. Ça permet d'avoir quand même ce support visuel.
C'est ce qu'on voyait finalement dans Aventure avec le joueur du grenier. Donc là, effectivement, vous avez des maps et des plans de là où sont vos personnages. Et on retrouve un esprit des tout premiers jeux de rôle puisque c'est toujours quadrillé pour permettre de connaître le déplacement de vos personnages. Alors, un jeu de rôle, on n'est pas sur un jeu de plateau. Votre personnage, il doit pas bouger de 2 cases par tour ou 3 cases. Ça marche pas comme ça. Même si ces règles-là, dans le fond du jeu de rôle, elles existent, mais ça permet permet surtout de visualiser où votre personnage est placé dans la pièce où il y a une action.
Exactement.
L'exemple le plus commun, je crois que c'est pour le combat.
Oui.
C'est-à-dire que on est dans une auberge, il y a trois joueurs, les trois personnages sont répartis à des endroits différents de l'auberge. À un moment, à une table, il se passe quelque chose avec une agression, un combat qui doit se lancer. Et bien forcément, le personnage qui va pouvoir réagir le plus vite, ça va être celui qui est le plus près de la scène, ou de ce genre de choses. Donc pouvoir visualiser sur un plan, c'est vrai que parfois c'est pratique.
Là où quand on le ferait sur table, où on aurait par exemple un tableau blanc pour dessiner ou un schéma,
exactement,
etc.,
ouais.
Là on le remplace en fait par une map sur laquelle on peut gribouiller aussi et déplacer son petit jeton numérique.
Et on va trouver sur ces plateformes-là aussi des systèmes pour les lancer de dés, bien évidemment.
Évidemment.
Ça s'affiche, puisque d'un côté vous avez le maître de jeu qui va lancer ses dés qui ne sont pas forcément visibles par les joueurs, mais à l'inverse, eux, les joueurs, vont lancer des dés et le maître de jeu, lui, doit pouvoir constater les résultats s'il veut vérifier si le joueur dit pas d'annerie. Enfin bref, ça reste un jeu, donc ça reste avec une possibilité de tricher si on a envie. Donc ça tient, quand on lance, ce qu'on fait, on appelle ça un jet de dés quand on fait du jeu de rôle. Donc quand on fait un jet de dés, généralement on lance ses dés, le maître de jeu a dit vous vérifiez si ça passe sous telle caractéristique ou telle compétence de votre personnage, et puis ensuite vous dites j'ai réussi ou j'ai raté. Donc le maître de jeu peut s'offrir de temps en temps un petit regard pour voir si vous lui dites pas des bêtises.
Voilà, après, il faut avoir confiance dans ses joueurs.
Mais c'est vrai que du coup, ça doit être visuel.
Voilà,
enfin,
c'est visuel.
Il faut que ce soit visible même.
C'est visuel.
Que ce soit visible.
Bah oui, parce que sinon, comment on constate la réussite ou pas?
La réussite ou l'échec.
Que ce soit pour le joueur ou pour le MJ.
Et donc, quand on joue sur Discord, on trouve exactement la même chose sous forme, tu nous le disais, de bots.
De bots. Voilà, c'est moins facile d'accès que sur Roll20 qui est conçu pour ça. C'est-à-dire qu'il faut rajouter des fonctionnalités à Discord en gros pour le faire. Mais. On trouve des de toute façon sur Discord on trouve des bots pour un peu tout et n'importe quoi,
ouais.
Et il y en a pour lancer des dés, ça a été conçu pour ça, et même il y a certains bots qui ont été conçus pour certaines règles de certains jeux spécifiques.
Enfin,
on peut toujours compter sur la communauté de créateurs, de toute façon, pour créer des choses qui sont adaptées, en fait, aux
règles. Comme on disait au début de l'émission, le jeu de rôle se joue avec des dés, les dés peuvent avoir un certain nombre de faces, et selon les jeux, vous n'utilisez pas les mêmes dés. Donc à partir de là, chaque jeu, chaque licence de jeu a son propre système de jeu. Certains se ressemblent, mais certains sont fondamentalement différents. Et effectivement, tu m'as montré quand on préparait l'émission un bot spécial pour ce qu'on appelle le système de jeu White Wolf. Les anciens l'appellent comme moi, je me sens vieux d'un coup. L'appellent le système White Wolf, mais aujourd'hui, toi tu l'appelles le système...
Le monde des ténèbres.
Ténèbres,
c'est White Wolf de toute façon.
C'est White Wolf.
On s'est compris quand même, donc c'est...
Et donc c'est un système où on lance des dés 10, et si on fait 10 ou 0, hein, c'est la même chose sur le dé, on dit que le dé en termes de jeu, que le dé explose, et on a le droit de le relancer du coup. Et là tu m'as montré un bot qui va lancer, on lance une poignée de dés hein, selon ce que notre personnage a le droit de lancer, 4, 5, 6. Le bot va lancer le nombre de dés indiqué, et ensuite va relancer automatiquement ceux qui explosent, donc ceux où il y a un 10, et va donner à la fin le nombre de résultats de réussite, puisque c'est ça qu'on cherche à avoir.
Il calcule tout seul, au lieu de lancer une pelletée de dés comme on fait généralement dans ce jeu. Voilà, enfin c'est un des désavantages du système, mais le bot calcule tout seul et au final nous donne instantanément le résultat final en fait. Ce qui est pratique, bien sûr.
Moi si je t'ai invité en fait ce mois-ci pour qu'on parle de jeux de rôle en ligne, c'est parce que je préfère très très peu de jeux en ligne pour tout un tas de raisons dont le temps à y consacrer. Mais dernièrement, je me suis mis, et on en fera peut-être une émission dans l'année, aux jeux de plateau en ligne face à la situation sanitaire, face à plein de choses ces dernières années. Et tout naturellement, moi je me suis approché du jeu de rôle en ligne pour voir comment ça fonctionnait. Et c'est là qu'on a décidé d'en discuter, d'en faire une émission. Et donc tu nous disais que parmi les bots on allait lancer des dés, mais on trouve aussi des bots qui vont pouvoir faire des ambiances musicales.
Voilà, c'est ça, moi je me sers aussi d'un bot qui fait de la musique en soi, donc du coup je peux lui charger une playlist en fonction des ambiances sonores que je veux instaurer dans la scène ou dans la partie. Et ça permet de... C'est un des avantages du jeu de rôle en ligne, c'est que ça permet facilement d'instaurer des ambiances,
tout à fait.
Donc des bruits de ville, ou des bruits qui font peur, ou de la musique de taverne, peu importe, en fait, on arrive à tout trouver, en fait, en termes d'ambiance sonore.
Bien sûr.
Mais c'est des choses qui se font aussi dans le jeu de rôle sur le table, pouvoir mettre une ambiance
sonore. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça, c'est la charge du maître de jeu.
Voilà.
C'est pas une obligation, mais on aime bien prévoir effectivement une petite bande-son pendant la partie, voire même quelques effets sonores à des moments critiques de notre scénario. Et Alors c'est toujours un peu compliqué de maîtriser en même temps, ouais, et de devoir s'occuper de la partie son et tout ça. Là, effectivement, s'il y a un clic à faire et que...
Voilà, c'est ça. C'est une des choses que j'aime bien dans le jeu de rôle en ligne, c'est qu'en fait, on peut faire les choses plus discrètement que quand on fait autour d'une table. Et donc, du coup, des fois, de surprendre plus les joueurs ou de faire un effet de surprise ou dramatique. Moi, je sais que j'aime bien... Alors, j'ai beaucoup fait des scénarios de l'Appel de Cthulhu, donc qui est un jeu très ambiance noire, mystérieuse, machin, et tout ça.
Fantastique horreur des années 30.
Voilà. Ou comme je peux envoyer des messages privés directement sur Discord à mes camarades, d'arriver à leur faire peur comme ça, en leur envoyant des messages pendant que les autres étaient en train de parler ou que j'étais moi-même en train de parler, pour que lui puisse le lire dans son coin sans que ça se remarque. Alors que bon, quand on est autour d'une table et qu'on fait passer un petit papier à quelqu'un...
Oui, c'est ça, parce que dans le jeu de rôle, on fait des petites apartés par moment, effectivement. Il peut y avoir un des joueurs, un des personnages autour de la table qui a une information supplémentaire ou qu'il a détecté de par ses compétences que les autres n'ont pas vu, et auquel cas le maître de jeu va lui donner cette information à lui et à lui uniquement. Donc on fait circuler des petits papiers en disant tiens, t'as remarqué ça, tiens, t'as droit à ça, tiens, il y a une voix dans ta tête.
Exactement. Et pour leur faire peur, par exemple, en disant tu vois une ombre à la fenêtre qui te regarde, et c'est le seul à l'avoir vue, et tout d'un coup il va dire oh mon Dieu, il y a une ombre à la fenêtre, et tous les autres regardent et voient qu'il n'y a rien. Enfin, ça permet de... Voilà, c'est une de mes victoires, c'est pas facile à faire en ligne, mais d'arriver à leur faire peur, en tout cas de créer une tension sur sans se voir en fait.
Et oui, parce que au niveau de l'immersion, c'est la question principale que je me pose. Quand on fait une vraie partie de jeu de rôle, je dis une vraie, c'est peut-être pas le bon terme, mais quand tu fais une partie classique de jeu de rôle en présentiel, tu peux t'éclairer avec des petites lanternes, des bougies, ce que tu veux, donc tu as une petite ambiance lumière, tu mets ton petit fond sonore, le maître de jeu s'installe derrière son paravent, tout ça, ça crée une espèce de dynamique immersive. Donc tu disais j'arrive à faire peur à mes joueurs en ligne.
On a réussi à retrouver ça, et je sais que j'ai des sur un scénario de l'Appel de Cthulhu, j'ai des copains qui m'ont dit j'étais vraiment sous pression à un moment donné, c'était vraiment tendu. Mais tout un tas de petites choses, ils étaient à fond dedans aussi, donc du coup forcément ça s'est goupillé comme ça, mais ça reste qu'une de mes petites victoires de jeu de rôle en ligne d'arriver. Alors on a fait une scène il y a pas longtemps sur du contemporain où ils faisaient la fête à Paris dans un parc et tout ça, et en fait ils étaient trop contents, ils se sont sentis de là, on a passé, enfin c'est...
Alors dans le jeu évidemment, ils faisaient la fête dans un parc à Paris.
Oui, attends,
c'est tout le problème. Alors quand il y a un joueur de jeu de rôle qui vous parle de ses parties, il va dire jeu pour son personnage puisque c'est lui qui l'incarne, donc c'est pas une crise de schizophrénie. C'est pas une crise de folie, c'est tout à fait naturel. Et effectivement, des fois, moi hier, je suis allé buter un troll, j'ai cassé ma hache. Heureusement, le forgeron, c'est un copain, il me l'a réparé pour 2 pièces d'or. Vous imaginez bien que j'étais pas dans la forêt en train de tuer.
Quand on se raconte des histoires, c'est vous vous souvenez cette fois où Hazen a tapé dans un mur pour voir s'il avait une super force et il s'est cassé le poignet. C'était pas en vrai, c'était dans le jeu. Bisous à Hazen d'ailleurs. c'est la façon dont on raconte les histoires, et pour rassurer certains, on se prend pas pour des elfes ou pour des trolls, j'en sais rien, mais c'est pas du tout une forme de schizophrénie, c'est une façon de raconter les histoires qu'on a vécues en fait finalement, parce que c'est ça qui est chouette dans le jeu de rôle aussi, c'est que ce sont des histoires, mais des histoires qu'on a pu vivre en ressentant les émotions qui étaient associées à la narration.
Et c'est vrai que la vraie immersion où on arrive en tant que maître de jeu à faire ressentir des émotions à nos joueurs, même en présentiel, c'est difficile parce que généralement on joue dans le salon de la cuisine de quelqu'un, enfin, ou dans un local associatif, mais on n'est jamais plongé dans le lieu qui correspond. Enfin, si vous faites jouer vos joueurs un jeu de rôle Star Wars, qu'ils passent tout le scénario dans le cockpit d'un vaisseau spatial, bien évidemment, l'intérieur de mon salon et de votre salon ressemble pas à un cockpit de vaisseau spatial. Après, il y a des petites astuces. Moi, je sais que quand je leur fais faire des longs trajets en véhicule, par exemple voiture, en autocar, en avion, je dispose les chaises chez moi comme si on était dans un avion ou dans une voiture, et ça crée une petite dynamique. Ça marche 20 minutes parce
qu'après... C'est plus difficile à faire en ligne, là, pour le coup.
Et puis, là, en ligne, tu ne peux pas, effectivement.
C'est plus difficile à faire en ligne. C'est pour ça qu'il y a quelques difficultés, entre guillemets, en fait, au jeu de rôle en ligne aussi. Le fait de ne pas se voir, parce que des fois, ne serait-ce que le fait de pouvoir mimer des gestes, en fait, pour décrire quelque chose, etc. C'est physique aussi, Donc, du coup, là, c'est des choses qui manquent aussi. C'est deux expériences qui sont très similaires et différentes à la fois. Mais ça reste du jeu de rôle, et ça permet surtout d'avoir accès à des tables de jeux de rôle si on est au fin fond, perdu au fin fond de la campagne ou qu'on ne connaît pas de rôlistes autour de soi, etc. Quoi.
Oui, c'est ce qu'on voulait vous dire à un moment de l'émission, c'est-à-dire que le jeu de rôle en ligne est une pratique ludique comme une autre. C'est pas parce que c'est en ligne que ça doit être moins bien ou mieux, mais qu'effectivement, dans un certain contexte, ça peut avoir une véritable utilité. On peut vous citer quelques exemples. Comme disait Lise, si vous habitez dans un coin paumé, qu'il n'y a pas de joueurs ou d'associations à proximité, le jeu de rôle en ligne peut être une première approche. En ce moment, avec la pandémie, le jeu de rôle en ligne s'est plus développé pendant les confinements en 2020 et cette année. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent. Et il y a même, si vous êtes un nouveau joueur, si vous n'avez jamais pratiqué, il ne faut pas avoir peur. Il faut vous connecter sur une de ces plateformes et vous allez trouver une table pour vous accueillir. Il y a sur chaque site propose ce qu'ils appellent, généralement ça s'appelle une taverne, mais ça peut porter un autre nom. Ça va être un endroit qui va être un endroit un peu forum où vous allez, les joueurs vont se rencontrer avec les maîtres de jeu et les tables vont s'organiser. Donc, alors évidemment, sur des premières connexions, peut-être que ça mérite que vous ayez un suivi sur 1, 2, 3 jours avant de pouvoir vraiment vous lancer sur une première partie, mais c'est tout à fait possible. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous encourager à le
faire.
Voilà,
allez, si vous avez envie de tester, il faut s'y lancer à un moment. Il y a plein de serveurs Discord ou de forums, effectivement, qui proposent des parties pour des débutants, etc. Donc, faut pas hésiter à s'y lancer. Même si j'étais assez étonnée hier quand on a regardé de voir qu'il y avait des gens qui faisaient payer des initiations aux jeux de rôle.
Ah oui, c'est vrai. On avait dit qu'on vous parlerait de ça aussi, puisqu'en préparant l'émission, alors, moi, j'avais entendu parler de ce genre de pratique, mais c'est vrai que j'avais pas creusé la question auparavant. Il y a sur certains sites des parties qui sont payantes. Nous, ce qu'on va vous conseiller aujourd'hui, c'est que ce soit une première expérience ou que vous soyez un peu plus expérimenté, favorisez d'abord des parties gratuites. Une partie de jeu de rôle, ça reste une partie de jeu de rôle. On va tester avec le conservatoire le jeu de rôle en ligne, on va tester avec le conservatoire les parties payantes. On vous dira dans une prochaine émission si ça vaut vraiment le coup ou pas.
Parce que c'est assez mystérieux, j'aimerais bien savoir.
C'est mystérieux, alors je sais pas, on a vu des tarifs hier qui nous ont étonnés, c'est-à-dire que 10 à 15 euros par joueur sur une partie, je trouve ça diaboliquement cher.
Donc,
moi.
À voir ce qu'ils proposent comme expérience de jeu en plus, je ne sais pas.
Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce qu'une partie de jeu de rôle, ça reste une pratique qui est semblable de les parties sont toutes différentes, mais dans la forme de la pratique, ça reste la même chose. Et je vois pas comment on peut valoriser financièrement une partie comme ça. Enfin, un maître de jeu qui vous écrit un scénario, ça reste un maître de jeu qui vous écrit un scénario. Il doit faire des recherches. Il a pas. Alors, je veux bien qu'on professionnalise certaines pratiques, mais en vrai, quand t'écris ton scénario, tu fais tes recherches, écriture, qu'elle te prenne une heure ou une après-midi, c'est toi qui choisis, puisque c'est toi le maître de jeu. Donc, bon.
Oui, voilà, c'est quelque chose qui m'interroge, en tout cas pour le coup. Mais sachant que la communauté du jeu de rôle, de façon générale, est quand même très collaborative, je ne sais pas comment dire ça.
Et participative, moi je dirais.
Participative, oui, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a des aides de jeu qui sont faites et créées par un peu tout le monde, nationalement et internationalement, et qui sont mises à disposition gratuitement.
Et puis, il y a beaucoup de maîtres de jeu qui sont spécialisés aussi dans l'initiation aussi. Moi, je sais que j'ai commencé parce que j'ai un ami qui maîtrisait quand j'étais étudiante, il adorait jouer avec des nouveaux joueurs. Parce qu'il trouvait ça frais, rafraîchissant de voir comment des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose pouvaient se débrouiller face à un univers. Donc, il y a toujours moyen, si vraiment on veut se lancer, en faisant quelques recherches, de trouver un groupe et... C'est rigolo, quoi. Enfin, voilà, c'est un moment aussi pour décrocher un peu de la...
Alors oui, après, il y a toute la valeur positive que peut avoir le jeu de rôle dans une activité. Oui. Puisque l'activité, rappelons-le, on en a déjà parlé dans une précédente émission, mais rappelons-le que l'activité jeu de rôle a été diabolisée pendant des années. Elle a récupéré ses lettres de noblesse depuis l'explosion des escape games et du jeu de rôle grandeur nature, qui est une variation du jeu de rôle... présentiel, papier et en ligne dont on vous parle aujourd'hui. Néanmoins, enfin, il faut pas hésiter à essayer. Je crois que c'est
si
le message principal.
Si ça fait envie,
vous allez découvrir le fait de jouer un personnage, on se rend pas compte. Quand on regarde une partie à l'extérieur, c'est pas aussi clair que quand on la pratique vraiment.
Non.
Et il y a rien de stupide à jouer un personnage.
Non,
on va pas se moquer de vous pendant que vous jouez. C'est le principe. On vous demande pas d'être un acteur oscarisé pour jouer un personnage de jeu de rôle. Vous êtes même pas obligé de faire un si vous aimez pas prendre des voix ou faire je sais pas quoi, vous êtes pas obligé de le faire, le comedy club,
chacun sa façon de jouer, chacun sa façon de pratiquer le jeu de rôle, et puis moi je vois très bien que c'est un truc qui se fait à tout âge, quoi, que ce soit en ligne ou pas en ligne. Bien sûr. On joue avec des garçons, des filles, des adolescents, des adultes,
des retraités,
des gens plus âgés, enfin que ce soit en vrai ou en ligne, hein, c'est une activité qui est très drôle et qui permet de en plus compte tenu des circonstances en ce moment. Qui sont quand même très pesantes aussi.
Oui, qui sont compliquées pour se rassembler, en
voilà,
fait.
Pour voilà, pour se rassembler, pour faire quelque chose où on s'aère.
Avec une vraie question, est-ce qu'on doit se rassembler à 5 dans mon salon pour faire une partie de jeu de
voilà,
rôle, alors qu'on travaille tous avec du public, des
et
choses comme ça. C'est compliqué, bien
moi,
sûr.
Moi, je me suis mis, en fait, je digresse peut-être un peu, mais je me suis mis à faire du jeu de rôle en ligne parce qu'en fait, je joue beaucoup en ligne de façon générale aux jeux vidéo. Et de fil en aiguille, j'ai des amis avec qui je jouais qui m'ont dit « mais j'aimerais trop faire du jeu de rôle, mais j'ai jamais testé ». Parce que j'ai pas de rôliste autour de moi, je connais pas les assos du coin, il y en a pas, je suis loin, je suis en Belgique, etc. Enfin, et donc du coup, je leur ai dit, si vous voulez, on s'organise, on bricole quelque chose. Alors au début, c'était vraiment de la bricolade. Hein.
Ouais, mais c'était pour faire un test, une initiation.
Une initiation. Et en fait, on s'est lancé comme ça, un peu en improvisant plein de choses. Et ils sont ressortis de là, mes amis, en faisant des one-shot, donc des scénarios courts, en fait. Mm-hmm.
Ce qu'on appelle un one-shot, en fait, voilà. C'est un scénario qui se déroule en une seule séance de jeu.
Voilà, c'est ça. À l'inverse
d'une campagne qui, elle, est une aventure qui se déroule en plusieurs séances.
Et ils sont ressortis de là, ils m'ont dit, c'était vachement chouette et tout. Quand est-ce qu'on en refait? etc. Et donc, du coup, on a fini par créer un serveur Discord rien que pour ça parce que ça leur a beaucoup plu. Ouais. Et ponctuellement, deux fois l'an, on se fait des petits scénarios, on se lance une petite campagne, on se prévoit des petites soirées.
Le jeu de rôle, moi j'ai découvert le jeu de rôle adolescent en association, j'ai trouvé que c'était une activité qui était addictive dans le bon sens du terme, évidemment. Parce que quand on a joué une première aventure dans un premier univers, on a vite envie d'essayer les autres. Parce que c'est cool à un moment d'être un personnage du Seigneur des Anneaux. Enfin, dans le monde de Tolkien, plutôt. Mmh. Alors, évidemment, vous serez jamais le protagoniste, vous serez jamais Gandalf, vous serez jamais Aragorn, vous serez jamais Frodon, mais vous serez des personnages qui peuvent être semblables et qui gravitent dans le même univers. Et c'est le maître de jeu qui va choisir à quelle période vous jouez. Donc, peut-être vous tomberez dans la période au même moment que les livres, au moment où Sauron est encore présent ou des choses comme ça. Ça peut être super. Et donc, là, je donne évidemment l'exemple du Seigneur des Anneaux, mais ça vaut pour toutes les licences qui existent aujourd'hui, plus toutes les licences de l'imaginaire, des univers de l'imaginaire, qui sont des choses qui sont pas tiré de la littérature ou du cinéma. Et il en existe une multitude et une multitude de bonnes.
Des choses sérieuses, des choses plus drôles, plus comiques. On peut jouer... On peut jouer un peu de tout.
Je te propose qu'on refasse une deuxième pause musicale. Et puis après, on vous donnera quelques références, quelques noms de jeux que vous pouvez essayer, qui sont des valeurs sûres. En attendant, nous allons écouter une chanson de Sia qui s'appelle « Fly Me to the Moon ». Allez, c'est parti.
Let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Song and let me sing forevermore. Oh.
Alors, Lise, c'est toi qui nous as fait l'intégralité de la programmation musicale d'aujourd'hui. Donc là, le deuxième morceau que tu nous as apporté, c'était donc Sia avec Fly Me to the Moon. Et tu ne nous as pas apporté ce morceau-là au hasard.
Non, alors déjà, c'est une reprise.
Bien sûr.
Non, mais il faut quand même parler.
Oui, c'est une reprise de Sinatra.
C'est une reprise de Sinatra, d'une chanson que j'aime déjà beaucoup à la base. Et qui est une reprise qui a été faite, une collaboration entre Sia, donc du coup qui est une artiste déjà pas mal connue que j'aime beaucoup, et Square Enix, qui est du coup l'éditeur, le fruit tombe pas loin de l'arbre de Final Fantasy XIV, en fait, qu'ils ont fait cette collaboration pour la sortie de la dernière extension. Voilà, et je trouve le morceau très chouette, indépendamment du fait que ce soit tiré d'une collaboration avec un éditeur de jeux vidéo. Voilà.
D'accord. Alors, on vous a dit juste avant la pause musicale qu'on allait vous donner quelques noms de jeux en vous expliquant quelques mots l'univers, que vous puissiez ne pas être trop perdu si c'est votre premier pas dans le jeu de rôle en ligne. S'il y a un premier jeu comme ça que tu devrais conseiller aux gens d'essayer, Lise.
Moi, les premiers jeux que j'aime bien faire jouer à mes joueurs en premier quand ils connaissent pas trop, c'est l'Appel de Cthulhu. Parce que je trouve le système facile à comprendre. Les persos sont rapides à faire, on comprend vite les concepts. Et on parlait des dés tout à l'heure, c'est un système avec un dé 100. Alors, c'est pas un dé à 100 faces, hein, c'est 2D10.
Mais avec les 2D10, voilà, on arrive à avoir un score sur 100.
Voilà. Et pourquoi c'est très simple? C'est parce qu'en fait, tout se joue sur du pourcentage.
Voilà.
Voilà, donc j'ai 50% de réussir mon jet, je lance mon dé, et si ça fait moins de 50,
c'est
j'ai
réussi.
Gagné. Voilà.
Et donc l'univers de l'Appel de Cthulhu, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est du fantastique horreur qui se passe entre 1920 et 1930, généralement.
Généralement, parce qu'il existe plein de variantes.
Voilà, maintenant il existe plein d'extensions qui permettent de jouer à d'autres époques, même dans le futur.
Oui.
Les mondes de l'Appel de Cthulhu sont tirés de la littérature de Howard Philip Lovecraft.
Voilà.
Qui est le fils spirituel d'Edgar Allan Poe, voilà.
Voilà. Et qui est le papa spirituel de Stephen King pour ceux qui voudraient l'entendre.
Donc fantastique horreur, si on doit vous donner une référence plus moderne que Lovecraft, effectivement Stephen King.
Oui,
je pense que c'est pas mal.
Qui se revendique de Lovecraft. Non, c'est facile d'accès, généralement c'est assez simple, c'est sous forme d'enquête la plupart du temps. Donc par contre, si vous aimez tuer des monstres, des choses comme ça, c'est pas forcément le jeu qui va vous faire rêver.
Ouais,
mais c'est beaucoup de l'enquête et de l'immersion. Et des choses comme ça, et c'est un jeu que j'aime bien faire jouer parce que le système est facile à comprendre.
Tout à fait, il est facile à comprendre, facile à utiliser.
Voilà, facile à utiliser.
On vous parlait aussi de création de personnages rapides sur ce jeu-là. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé là pour le jeu de rôle en ligne, mais vous devez donc créer un personnage évidemment, et vous avez surtout une fiche de jeu. Alors là, elle sera dématérialisée sur le jeu en ligne.
Quand on fait des jeux en ligne, généralement, maintenant tous les éditeurs s'y sont mis, en fait, ils font des fiches de jeu qui sont trouvables sur leur site généralement, qui sont des PDF éditables qu'on peut remplir directement avec son clavier, en fait, où on note toutes les infos, on coche toutes les cases. Tous les éditeurs s'y mettent.
L'activité se démocratise, c'est normal.
C'est très pratique. Heureusement qu'ils s'y mettent aussi, parce que sinon c'est un peu compliqué à remplir une fiche de personnage sans avoir d'édition PDF.
Bien sûr.
Mais ça a été pensé, ça commence. Ouais, les éditeurs commencent à s'y mettre aussi, à réfléchir à ce genre de choses. Et donc, du coup, on a des supports de jeu, des choses qui sont faites pour du numérique.
Donc, l'Appel de Cthulhu, un deuxième jeu à conseiller. Moi je vous dirais bien de mon côté, tout bêtement, Donjons et Dragons.
C'est ce que j'allais dire,
médiéval fantastique. Vous aimez le médiéval fantastique, Donjons et Dragons. Alors il existe encore une fois une multitude d'éditions.
Exactement.
Mais alors là on doit être à la cinquième, je crois, édition.
Cinquième, moi je crois.
Vous pouvez faire une partie de la cinquième édition. Les règles changent un peu d'édition en édition. Moi j'ai un coup de cœur pour la deuxième édition qui était pas si pratique que ça à utiliser, mais quand on y a beaucoup joué, c'est devenu des réflexes.
Je n'ai joué qu'à la cinquième, donc du coup.
À l'époque, quand on tapait contre un orc, un troll, ce que tu veux, on devait donc voir si on pouvait toucher à l'attaque et on devait calculer un truc qui s'appelait le taco. Et ça voulait dire toucher classe d'armure zéro.
Ah d'accord, taco.
Et donc le calcul, c'était on lance un des 20, on soustrait notre score de taco selon le niveau de notre personnage, on y ajoute des bonus de dextérité et de constitution, on y retire des malus quelconques et on le compare à la classe d'armure du personnage que l'on frappe. Si on a fait un score... en dessous de la glace d'armure, on le touche. Si on le fait au-dessus, on le touche pas.
Ça fait compliqué quand même.
Donc c'était compliqué à calculer, oui, oui. Mais après, bah, on y a tellement joué à l'époque, oui, Donjons et Dragons, au moment de la deuxième édition, je crois, sans trop m'avancer, que c'était le jeu le plus pratiqué.
Oui.
La communauté de joueurs, à l'époque, il y avait évidemment pas Internet et tout ça, mais sur la presse, on disait déjà que ça gueulait en disant « Le taco, c'est ennuyant, c'est fastidieux, mais on joue quand même avec, parce qu'il y avait... »
Il y avait pas que ça,
mais il y avait tellement peu de choix à l'époque, en tout cas moins de choix que maintenant. Donc, bon, tout ça, c'est de la petite anecdote sur la deuxième édition. Vous trouverez du jeu en dernière édition avec des calculs qui sont, que vous n'aurez jamais à faire de toute façon pour que les règles soient aisément. En fait, ce qu'il faut pour des bonnes règles de jeu de rôle, c'est qu'il faut que ça aille vite. Quand vous faites une action, je repense à l'exemple du combat, et on peut imaginer un jeu contemporain où un personnage, il saute d'un hélicoptère pour atterrir sur un train, puis il veut rentrer ensuite dans le wagon du train. Bon, bah, tout ça, il faut que ce soit instantané, donc on fait des lancers de dés, il faut qu'on dise tout de suite, ça passe pas.
Voilà,
si ça passe pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je tombe du train et que je me blesse, je tue mon personnage ou quelque chose comme ça? Voilà.
Voilà, mais c'est, de toute façon, sachant qu'en plus, chaque jeu a un système, mais on n'est pas obligé, enfin, de jouer avec le système du jeu en question.
Et on n'est pas obligé de jouer avec le système.
Ça peut arriver après avec un peu d'expérience de bricoler des systèmes de jeu, de modifier une règle parce qu'on la trouve pas cool,
ou on la trouve lourde à gérer, parce que des fois on l'a pas bien comprise, ça arrive aussi.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, c'est pas rigide au point de, il y a pas l'éditeur du jeu qui va venir dans votre salon taper dessus avec un bâton parce que vous.
Reprenant l'exemple de l'appel de Rthulhu, on vous a dit c'est un jeu fantastique horreur qui se déroule dans les années 20 et 30, mais en fait. Rien ne vous empêche de faire une partie où ce sera juste une enquête qui n'aura pas une seule once de fantastique ni d'horreur, et vos personnages font une enquête policière. Je dis une enquête, mais ça peut être n'importe quel type d'aventure.
On peut
les imaginer partir, je sais pas moi, la découverte d'un vieux temple maya quelque part au Pérou,
ça peut être plus aventure,
et sans qu'il y ait aucun fantôme, aucun monstre et aucun dégât lié à ça sur le personnage.
C'est très varié en fait, c'est ça, c'est qu'il y a de tout et.
Et puis alors là, on vous a cité deux grands classiques, hein, l'appel de Rthulhu et Donjon Dragon.
Voilà,
c'est vrai que on n'est pas allé chercher très loin, soyons francs. C'est en France, je dirais, deux des licences les plus connues, si c'est pas les deux plus connues en France et ailleurs d'ailleurs. Mais il existe une multitude de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui sortent chaque année de nouveaux jeux. Il faut pas hésiter à vous renseigner si vous voyez un descriptif d'univers qui vous plaît. Il existe, vous allez trouver, j'aime pas ce terme, mais tout et n'importe quoi en univers.
Oui, c'est pas à boire et à manger, quoi.
Voilà, mais de tête, on peut vous citer Polaris, dans un futur où tout le monde vit sous l'eau parce que la fonte des pôles a noyé toute la Terre. On peut vous parler d'Empire Galactique qui se passe en l'an 12 000, dans un futur très lointain. On peut vous parler de tout un tas de jeux médiévaux fantastiques avec plus ou moins de magie, ou pas du tout, ou même des petites onces de technologie au milieu du médiéval,
Et puis alors je sais que c'est pas la période, etc., mais dès qu'on sera revenu à une situation un peu plus classique, d'aller voir des salons fantastiques ou des choses comme ça, où il y a des éditeurs qui vont, des auteurs aussi,
donc des conventions, en fait. Voilà, le salon fantastique, c'est une convention, le Conservatoire du jeu participe chaque année.
Par exemple, celle de Paris,
qui n'a pas eu lieu depuis 2019.
Il y a d'autres salons de l'imaginaire où il y a pas mal d'éditeurs qui viennent avec leurs jeux, avec leurs auteurs, pour présenter leurs jeux. Et où ça permet de les voir, de les regarder, de discuter avec les auteurs. Et moi, j'ai découvert pas mal de petits jeux de rôle comme ça, pas forcément grand, enfin, en tout cas, diffusion de très grand public, qui sont tout à fait sympathiques à jouer aussi.
Tout à fait.
Et ça permet de découvrir d'autres univers auxquels on n'aurait pas forcément pensé sur le.
Voilà. Et sur la pratique, je crois que l'information à retenir, c'est que la limite pour jouer à du jeu de rôle, c'est votre imagination.
Voilà.
Donc, avoue que ça tient qu'à vous, qu'il n'y ait pas de limite.
Et là où j'ai tendance à dire, pour faire du jeu de rôle, on a juste besoin de sa tête, un crayon et un papier. Ben, avec le jeu en ligne, on a juste besoin de.
D'un ordinateur.
Un ordinateur, une paire d'écouteurs et un micro. Et puis, basta. Après, voilà. C'est aussi simple que ça, et c'est une activité qui est facile d'accès, en fait, si on veut s'y intéresser.
Ben c'est vrai qu'en quelques clics, maintenant de plus en plus de gens ont un compte Discord, donc si vous n'avez pas un compte Discord, ça se crée en 2 minutes.
Et puis
une inscription sur un site, vous le savez tous, ça se fait en 2 clics.
Et ça permet de jouer avec des gens d'un peu partout, alors j'allais dire dans le monde, mais bon, après c'est plus compliqué.
Mais oui, parce que là, pour le coup, il faut jouer avec des francophones. Si on veut jouer en français, il faut jouer avec des français.
Moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec des amis, et ils sont partout en France, voire même dans d'autres pays.
Pays d'Europe, bien sûr.
On joue avec des Belges et donc d'autres francophones, mais en fait ça nous permet quand même de partager une activité de jeu de rôle ensemble, mais à distance. Et ça leur a permis de découvrir le jeu de rôle, et En fait, c'est la porte d'accès maintenant à pas mal de nouveaux joueurs en fait qui commencent par du jeu de rôle en ligne. Oui. Moi, je joue beaucoup avec des adolescents. Et quand je leur demande, quand ils arrivent la première fois, je leur dis « Vous avez déjà fait du jeu de rôle ?» Ils me disent « Oui, en ligne. »
Eh oui, et ce qui moi, m'a pas mal surpris voilà. quand tu m'as dit ça, quand oui. on préparait l'émission, ça m'a pas mal surpris parce que longtemps, on a été sur la découverte du jeu de rôle, sur la démonstration de l'initiation oui. physique, présentielle avec des gens. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, il y a toute une catégorie de jeunes joueurs qui vient en disant « Je connais le jeu de rôle, j'ai déjà joué, mais j'ai jamais joué en vrai, entre
en
guillemets. »
Voilà.
J'ai jamais joué avec des vrais gens, j'ai toujours joué
moi,
en ligne.
Et moi, ils me disent bah, « Du coup, bah, non, j'ai jamais joué en vrai. » Puis quand je rate, je me rends compte qu'ils ont joué en ligne. Et je dis bah, « Si, vous avez une pratique du jeu et de rôle, en fait, qui est déjà existante. » Et ce n'était pas le cas il y a quelques années.
C'était pas le cas il y a voilà. quelques années. Mais je trouve que là, le changement par rapport à la pratique, l'usage oui. du jeu de rôle en ligne, c'est vraiment 2020, un confinement.
Oui, il y a une accélération, oui, en oui, fait, oui. effectivement.
Mais c'est normal. Enfin, bah oui, les oui. gens qui se réunissaient une fois, deux fois, trois fois par semaine pour faire des parties chez l'un chez l'autre, du jour au lendemain, comme tout le monde, comme pour tous, se retrouver confinés oui. chez eux, eh ben, c'était d'une évidence que la pratique en ligne allait se développer, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle aussi oui. aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un bond, on va dire. Les outils n'ont pas forcément changé, mais tout va évoluer plus vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui pratiquent aujourd'hui.
Oui.
Donc n'hésitez pas à aller découvrir. si vous cherchez quelques infos supplémentaires, complémentaires ou pour essayer, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs, Lise ?
Alors, déjà dans un premier temps, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font des jeux de rôle.
Oui.
Pour, qui...
Oui, on a oui. cité Aventure avec le joueur du grenier.
Voilà. Mais ça, c'est assez ancien maintenant, mais il y a pas mal.
Il y a Maillard, qui est sur tous les réseaux sociaux, je crois, YouTube, qui propose de façon très régulière des parties de jeux connus ou des jeux à lui. Je crois qu'il y a les deux.
Oui, je crois qu'il y a des choses maison.
Faut pas hésiter à aller voir.
Il y a ce que je disais hier, il y a un créateur qui s'appelle Fibre Tigre qui fait une émission qui s'appelle Game of Roll aussi en France ouais. qui est très très chouette aussi de qualité.
Game of Roll, sur YouTube
ouais.
aussi.
Sur YouTube aussi, ouais. Et bon, je sais que c'est du côté américain, mais on a aussi un groupe d'Américains qui ont une émission qui s'appelle Critical Role et qui est la plus ancienne émission de jeu de rôle oui. sur YouTube. Et où ils ont beaucoup joué en ligne aussi pendant la pandémie, forcément. Donc. Mm-hmm. Et qui a pris tellement d'importance que ça va être une série sur Amazon dans pas longtemps.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se développent beaucoup autour du jeu de rôle en ligne en ce moment et qu'on contribue à le populariser en fait auprès d'un plus grand public. Et il ne faut pas hésiter à aller farfouiner justement autour de ces émissions. Il y a toujours des communautés qui existent, etc. Et ce sont généralement des rôlistes. Donc, qui peuvent donner accès à des tables, à des ressources, des choses comme ça. Faire des recherches, même bêtement, sur un moteur de recherche pour trouver des serveurs Discord, collaboratifs, pour trouver des tables. J'ai vu hier sur Roll20, visiblement, ils proposent il y a un moteur de recherche dans le site pour chercher des parties aussi.
Par rapport au titre du jeu, par rapport...
Par rapport aux thématiques.
Par rapport aux thématiques, c'est vachement bien.
Voilà, donc,
c'est vachement bien. Voilà. Vous mettez futuriste si vous voulez faire du futuriste et vous allez trouver tout un tas de tables avec des jeux qui sont tous futuristes.
Voilà, c'est ça. Et donc, et à droite, à gauche, en fait, de façon générale, vous allez assez vite trouver les communautés de rôlistes en faisant quelques recherches.
Oui.
Ils se cachent rarement quand même.
Je suis pas allé voir sur le site de la Fédération de jeux de rôle.
Il me semble que j'ai vu qu'ils avaient maintenant.
Mais j'imagine qu'ils doivent en parler à un moment.
Je crois que j'ai vu ça.
Ça paraîtrait assez logique.
Mais voilà, en fait, si vraiment ça vous intéresse, faut pas hésiter à se lancer, à faire en 2-3 clics, on peut trouver une table et puis s'y lancer. Des fois, ça peut être le jeu ne nous plaît pas forcément, les gens avec qui on est, c'est pas forcément. Mais ça arrive même en vrai,
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, vous allez jouer avec tout le monde et n'importe qui.
Mais c'est ça aussi qui est intéressant aussi des fois de jouer des joueurs plus expérimentés, moins expérimentés, etc., etc. Enfin. Et puis c'est de façon générale, j'ai envie de dire, la communauté rôliste est plutôt accueillante, surtout pour les nouveaux joueurs.
Oui.
Donc
la communauté de rôlistes, j'allais dire exactement ce que tu as dit. Elle est très accueillante effectivement. C'est-à-dire que quand on est rôliste, on est content de voir quelqu'un qui veut débuter, qui vient partager ce même loisir.
Enthousiaste au fait de pouvoir faire découvrir aussi ses hobbies, son passe-temps, sa passion.
Mais comme le jeu de rôle grandeur nature, on est sur des communes qui sont vraiment vraiment portées sur l'accueil.
De façon générale.
Et l'accueil des nouveaux joueurs en général.
De façon générale. Bon, il y a bien sûr, évidemment, toujours son lot de...
Mais
ça, il y en a partout. Mais on va dire que l'ambiance est plutôt à la bienveillance et à l'accueil des nouveaux joueurs. Au contraire, parce que les rôlistes sont de façon générale des gens passionnés qui ont envie de faire découvrir leur hobby et qui seront ravis de vous aider et de vous guider si vous décidez de vous lancer. Et on n'a jamais été aussi bien en termes de jeux de rôle là, qu'actuellement, parce que ça le vent en poupe. Il y a des tas de ressources qui sont créées par les joueurs, par les éditeurs, la pandémie a joué là-dessus, on va dire que c'est un mal pour un bien. Mais d'être reconnu comme quelque chose de valorisant et d'amusant et de voilà. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
Très bien. Eh bien, merci Lise pour cette émission. Je reviens vers toi dans une minute. À chaque fin d'émission, je vous donne traditionnellement le programme des animations à venir pour le mois prochain. Malheureusement, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette émission, avec la crise sanitaire, tout ça, le programme est en perpétuel mouvement pour le mois de février. Tout ce qu'on est sûr à peu près. on est sûr de rien. Voilà, on est sûr de rien. Le programme peut bouger, donc on vous invite encore plus que d'habitude à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, et je pense à Facebook en particulier, puisque on crée des événements Facebook à chaque événement qui est fait par le Conservatoire du jeu. Mais vous avez également notre site internet avec la page programme sur leconservatoiredujeu.fr. En attendant, ce qui est prévu pour le moment. Pour le mois de février, c'est le tournage de notre prochain épisode d'Archéoludique. Archéoludique est notre série sur YouTube, où à chaque épisode, on présente l'histoire d'un jeu et on agrémente l'émission de quelques scénettes de mise en scène à la manière des vidéos à la mode du joueur de grenier et de plein d'autres. Nous tournons les week-ends du 26 et 27 février et nous recherchons pour l'occasion des figurants, mais aussi des gens qui sont intéressés pour faire partie de l'équipe technique. Donc, si des fois ça vous dit de tenter cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un petit mail à conservatoiredujeu@yahoo.fr ou à nous contacter par là de nos réseaux sociaux. En attendant, vous pourrez nous retrouver dans les mois suivants, je pense au dimanche 3 avril pour une scène de crime exceptionnelle, une scène de crime fantasmagorite au théâtre municipal de Nevers. Il n'y aura que deux sessions avec un accès limité, une jauge d'entrée bien évidemment. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez réserver une place. Et puis le 28 mai, on vous l'a déjà annoncé le mois dernier, on sera au parc Roger Salengro pour notre traditionnelle fête du jeu. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve le mois prochain. Lise, un mot pour la fin ?
Jouer, c'est chouette. Venez avec nous.
Viendez
avec nous. Ça a failli. La langue a failli.
Eh bien, merci. Merci, Lise, d'avoir de nouveau été mon invitée.
Avec plaisir.
Pour cette 34e émission de À quoi qu'on joue. Vous pourrez retrouver, bien évidemment, toutes nos émissions sur les podcasts de Bac FM sur bacfm.fr, mais également sur la chaîne YouTube du Conservatoire du jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques.